Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Rien de ce qui est familial n'est sécurisant pour moi, affirmait Marie Cardinal au micro de Jacques Pogam dans l'émission Parti pris. Phrase définitive pour le moins. C'était le 18 juillet 1975 sur France Culture.
Bonjour, je vous propose aujourd'hui un parti pris mot à mot avec Marie Cardinal, dont vous avez peut-être lu les mots pour le dire, publié chez Grasset. Marie Cardinal, quelle est la vérité qui vous gêne le plus ?
Moi-même.
Mais encore ?
Ben moi-même. C'est-à-dire toute l'ambiguïté d'un être humain, toutes les compromissions dans lesquelles un être humain est obligé de s'embarquer dans notre société, dans notre civilisation. Alors, ce qui m'embête, c'est que finalement, je ne suis pas obligée de m'embarquer dans ces compromissions. Et pourquoi est-ce que je m'y laisse prendre ?
Quelle est la compromission personnelle qui vous a le plus marqué ?
Vendre ma marchandise, vendre mes livres.
Parce que ça vous paraît être vendre une partie trop intime de vous-même ?
Oh, pas du tout. Ça, alors là, pas du tout. Non, mais parce que je trouve qu'on devrait, les gens comme ça, qui ont la chance que j'ai moi, qu'on les peintres, qu'on les poètes, qu'on les musiciens, qu'on les tous les créateurs comme ça, qui ont cette espèce de chance innée de pouvoir s'exprimer, de pouvoir raconter des histoires, de pouvoir les peindre, de pouvoir transmettre aux autres, ça devrait être gratuit. Il devrait y avoir des places publiques avec des gens qui racontent, des gens qui écrivent, des gens qui peignent. Ils devraient vivre comme ça sans avoir à vendre ça. Ça salit, je trouve.
Au fond, vous ne pourriez pas ne pas écrire.
Ah non, ça c'est impossible. Ça, je pourrais me passer de tout sauf de ça. Parce que de toute manière, j'écrirai. J'écrirai dans ma tête, même sans papier et sans crayon. Je me raconterai des histoires, mais je ne les raconterai pas comme un conteur, je les raconterai comme quelqu'un qui écrit. C'est-à-dire, je verrai le rythme des phrases et le rythme des paragraphes, les uns par rapport aux autres, et je finirai une histoire écrite, ça c'est certain.
Plutôt qu'un journaliste, vous êtes un écrivain ?
Ah, je ne suis pas du tout journaliste. Je ne supporte pas la contrainte de l'espace, si vous voulez, qu'obligatoirement est obligé de subir un journaliste, puisque un journal c'est un journal qui a tant de pages, qui a tant de dimensions, et on peut pas écrire indéfiniment, alors qu'on peut écrire un livre indéfiniment.
Et la contrainte du temps ?
Ça non, c'est pas pesant. Vous savez, le temps il passe pas quand on écrit. Je veux dire, il n'a plus de valeur, il n'y a plus de temps. Justement, c'est seulement dans le côté commercial qu'il y en a, c'est-à-dire qu'un éditeur veut un livre à telle période ou à telle autre. Et alors là, le temps vient comme une insulte, comme un carcan. Mais dans le fait même d'écrire, le temps n'entre pas.
Quand vous écrivez, c'est le rythme qui vous est le plus personnel plutôt que ce que vous racontez ?
Mais l'histoire dans la tête, elle est toute faite, comme ça on la connaît bien, et puis quand on commence à l'écrire, elle se transforme. Et elle se transforme à cause d'un certain rythme, à cause d'une certaine valeur que prennent des mots l'un mis à côté des autres, qu'on n'avait pas vu avant que ça soit écrit. Alors, ça vous attire, on a envie d'enfler une chose et on se laisse prendre par ce rythme-là et c'est merveilleux, c'est formidable et c'est ça le plus important. Quand on se met à écrire, par exemple, on sait très bien, hier soir, cette nuit avant de m'endormir, je me suis arrêtée là, bon, point, j'ai mis un point. Et puis ce matin, je me réveille et je sais la suite de mon histoire, mais je ne sais pas bien comment ça va se passer. Et c'est ça qui est excitant. Et c'est ça qui est bien. c'est ça qui fait que, bon, on reprend la dernière phrase et puis on continue. On s'est arrêté quelquefois au milieu d'un paragraphe. Et bon, alors maintenant, alors par exemple, elle ouvre la porte. Et tout d'un coup, t'as la tête, on se dit, ah oui, elle ouvre la porte et elle l'ouvre brutalement. Alors il y a une lumière qui vient, il y a quelque chose qu'on n'avait pas imaginé, ou un courant d'air, ou... et hop, on entre dans un rythme comme ça, la nécessité d'aller plus loin, de... que ça soit plus lent à ce moment-là, ou bien qu'au contraire, ça s'accélère. Et ça, c'est formidable d'écrire à ce moment-là. C'est ça, le plaisir d'écrire, c'est pas tellement de raconter l'histoire elle-même. C'est un rythme. C'est un rythme qui est impératif. C'est un rythme qui est extrêmement important. Et vous ne pouvez pas arrêter un écrivain d'écrire, même si c'est trop long, son paragraphe. Lui, il a besoin de cette lenteur ou de cette longueur. Il le sent comme ça. Et ça, c'est une chose qui est très spéciale à chaque personne, puisque chaque individu a sa manière d'écrire. Mais chaque individu a... Je suis sûre que tout le monde sera d'accord avec ce rythme qu'on trouve qui vous est totalement personnel. Et ce qu'il y a de formidable, enfin moi c'est un problème, je pense qu'il y a des gens qui d'emblée ont écrit facilement, ont écrit des choses qui leur convenaient totalement et qui se collaient bien à leurs pensées. Mais je pense qu'il y a au contraire que c'est un métier et qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ont un mal de chien à écrire et à trouver leur propre ton.
C'est votre cas ?
Ah oui, c'est mon premier livre, celui-là. C'est pas encore parfait, mais c'est la première fois qu'il y a des longs moments dans ce livre-là où tout m'appartient, où c'est complètement ma chose, mon rythme, mon écriture. Plus on est cultivé, et plus c'est difficile de trouver ça, parce qu'on est pris par les rythmes des autres qu'on a trouvé beau, qu'on a respecté, qu'on a admiré, et finalement on fait beau, ou on fait bien, ou on fait intelligent, ou on fait correct, mais on fait pas soi-même.
Vous parlez de rythme, quelle importance attachez-vous au silence ?
Capital. Moi je suis très embêtante à la fabrication avec les blancs, avec les bonnes pages, passer en bonnes pages, avec la ponctuation, avec la respiration dans un livre. Là, par exemple, le début a été complètement pour des questions de fabrication. On a enlevé des blancs. C'est moi, à chaque fois que... C'est exactement comme dans une musique, quand on coupe, vous savez, quand on monte une bande magnétique, qu'on coupe au milieu, qu'on la racole à n'importe quoi. Moi, ces endroits où il manque ces blancs me viennent, paf, comme une claque à chaque fois que, par hasard, je suis tombée dessus en reprenant mon livre pour des raisons X, Y ou Z. Et je trouve ça capital. Je pense qu'on devrait vraiment composer un livre...
À partir des silences ?
Pas à partir d'eux, mais en tenant énormément compte, et que les écrivains devraient travailler avec les typographes et avec les gens qui fabriquent les livres.
Vous êtes un artisan du mot ?
Ah oui, moi j'aime bien ça. J'aime bien tout ce qui touche à non seulement aux mots à cause de ce qu'ils contiennent et du bruit qu'ils font et même de leur forme, mais je suis très attentive à la typographie, à la maquette, à comment on arrange les mots sur une page.
Est-ce qu'il y a des mots qui sont pour vous des mots références qui reviennent sur votre... Sous votre plume ?
Comme tous les êtres humains, bien sûr.
Vous les connaissez, ces mots ?
Oui. Il y a importance, il y a... C'est pas tellement des mots que des rythmes. Et certaines phrases, certaines façons de faire une phrase courte... d'épurer comme ça, de tout enlever autour et de mettre entre deux points seulement deux ou trois mots.
Vous travaillez au burin ?
Travaille, moi pas compte comment je travaille.
Est-ce que vous faites des analogies entre votre façon d'écrire et certaines pages de musique ?
Ah oui.
Vous sentez proche de qui ?
Ravel. Ou bien les... J'aimerais aussi écrire J'aimerais vraiment, alors formidablement, écrire du free jazz.
Oh, ça, alors... Pourquoi, pour le jazz ou pour la liberté du free jazz ?
Pour la liberté, oui. pour, vous savez, les moments comme ça où ça vient par en dessous, là, on entend l'instrument qui vient de loin, enfin, presque pas, et puis devant, il y a comme une espèce de magma, et puis ça monte, et puis au moment où on a l'impression que dans une espèce d'esthétique classique, vous voyez, là, ça va bien s'étaler, on va bien profiter de ce moment esthétique, paf, il est coupé, là, oh, moi, je trouve ça formidable, j'aimerais, oui, j'aimerais bien ça.
Mais comment rendre l'impression d'orchestre lorsqu'on n'a qu'une ligne pour faire passer des mots ? Vous travaillez en solo, le mot c'est du solo.
Oh oui, mais qu'est-ce qu'il faut en être dans la tête, hein ? Je veux dire, chaque mot, bon, oui, il a la forme, il a trois lettres, six lettres, ok, mais qu'est-ce qu'il y a dans chaque mot ? Et chaque personne, chaque individu peut mettre tout ce qu'il veut dans le mot table, dans le mot maison. Je sais pas, que si je vous dis maison, à quoi vous pensez ? Vous pensez
vous,
sûrement pas aux
pensez...
mêmes choses que moi.
À quoi pensez-vous lorsque vous évoquez le mot maison ?
Ah, je pense à l'Afrique du Nord, je pense aux palmiers, je pense à la blancheur, je pense à... et aussi au vide, quelque chose de vide.
Pourquoi le vide ?
Oh, ça, alors là, c'est l'analyse, probablement parce que j'ai été très seul dans mon enfance, et que les maisons que j'habitais étaient extrêmement belles, je les aime énormément, j'y suis très très attaché, et puis j'y étais complètement solitaire. Vraiment, j'ai le souvenir des pieds nus sur le... Vous savez, il n'y a pas de plancher dans ces pays-là, sur la faïence ou bien sur les dalles de marbre ou de pierre des maisons, du sol, comme ça. J'ai ce souvenir-là, très, très agréable, parce que c'est doux sous les pieds et puis c'est tiède. Il fait rarement extrêmement froid. Il fait souvent très chaud et j'ai un souvenir très délicieux, mais qui est complètement lié à maison. C'est mais... intérieur. C'est à l'intérieur de murs avec des fenêtres et des pièces.
Ce cadre, c'est une sécurité ?
Non. Rien de ce qui est familial n'est sécurisant pour moi.
Marie Cardinal, quelle est pour vous la plus grande hypocrisie de notre temps ?
La liberté.
Pourquoi ?
Oh, bah parce qu'on n'est pas libre. Alors, on nous bassine avec ça, puis c'est de la démagogie, c'est pas vrai, on n'est pas libre. Ben, quand les gens vous disent, c'est vrai, le fameux truc avec Solzhenitsyn, quand il dit, vous comprenez, d'accord, vous dites que vous n'êtes pas libre, mais vous n'avez jamais été dans les camps, l'archipel du Goulag, vous ne savez pas ce que c'est, etc., c'est possible, mais... C'est justement l'hypocrisie terrible de cette soi-disant liberté que nous avons, nous. Ça, c'est complètement faux. Et alors, quand on a une femme, on la subit encore plus. Et je ne suis pas féministe, je ne cesse de le répéter.
Vous préférez la responsabilité à la liberté ?
Oh, moi, j'aimerais bien une vraie liberté.
Qu'est-ce que ça serait, une vraie liberté ? Une utopie ?
Je crois que ça serait l'amour.
Ça n'existe pas, l'amour ?
D'abord, qu'est-ce que ça veut dire l'amour, hein ? Alors, je veux dire, quand je veux dire l'amour, je veux dire la chaleur qui relie chaque être les uns aux autres. Et le grand respect de tout.
Amour égale respect ?
Ah oui, ben évidemment. Vraiment, quelqu'un qu'on respecte pas, c'est pas quelqu'un qu'on aime. Et puis, si on se respecte pas soi-même aussi, enfin, je crois, enfin, je sais pas.
Vous vous respectez vous-même ?
Pas toujours. C'est pour ça que je vous dis que ce qui me gêne le plus, c'est moi-même.
Et les autres vous respectent ?
Ah oui. Ah, les autres me respectent ? Oui, en gros, enfin, je suis pas tellement agressée. Enfin, ils me respectent comme on respecte dans nos sociétés, quand même, je veux dire. Les femmes, elles sont pas respectées dans leur travail, par exemple. Je reviens toujours aux femmes. Mais c'est parce que c'est important. On n'est pas respecté dans notre travail, vraiment. Même dans les choses dites féminines, on n'est pas respecté, puisqu'on ne les trouve pas importantes.
Et vous n'êtes pas un peu responsable de cette situation, vous, les femmes, de l'attitude des hommes à votre égard ?
Des fois, j'ai gambergé avec des trucs comme ça, et je me suis dit, ben, enfin, quoi... Est-ce que c'est pas parce qu'on est des durs à cuire terribles que les hommes ont fini par se cuirasser contre nous ? Parce qu'on a drôlement les racines enfoncées dans la terre. on est drôlement matérialiste. C'est obligatoire à cause du fait qu'on est une femme. Je veux dire, une femme, elle est toujours en contact avec la nature. Une femme, tous les 28 jours, même si elle ne le veut pas, même si c'est Ophélie, elle pisse le sang, il n'y a rien à faire. Et ça, c'est quelque chose qui est direct. Elle le connaît, ce cycle de la nature. Elle est complètement
liée.
Toujours le
rythme, oui. Pour revenir à votre idée de rythme.
Oui. Les femmes sont très liées au cycle cosmique et à tout ça. Et elles savent ce que c'est que... Les femmes qui ont eu des enfants, elles savent ce que c'est que le corps, que la chair, que les muscles, que la souffrance, que la lourdeur, que l'épaisseur. Les hommes, ils peuvent très bien passer toute une vie sans passer par là.
Mais alors, pourquoi nous le communiquent-elles si peu, cette conscience du
corps ?
Parce
qu'on leur a interdit. Je crois que c'est ça qui les a rendues fortes, dures.
On leur a branlé le cœur ?
Non, je crois qu'on a trouvé le moyen de les asservir par la maternité, l'amour... complètement stupide des enfants, du mari, etc. Puis on lui a fait croire que c'était le plus beau rôle. Il y a encore beaucoup de femmes qui vous disent ça. Il y a encore beaucoup de femmes qui disent « Mais nous, on a le plus beau rôle. Français, on élève nos enfants, on aime nos maris. » Tu vois, tu parles.
L'enfant, pour vous, ça n'est pas associé directement à l'idée de femme ?
Ah bah oui, ça oui. Ça, je ne peux pas faire autrement. Si on n'était pas là, il n'y aurait pas d'enfant, entre nous, soit dit. Il y a pas, ou les hommes non plus, mais je veux dire...
Vous le regrettez ?
Ah, moi j'ai 3 enfants, je les trouve formidables et tout, mais ce que j'ai fait avec eux, c'est pas très orthodoxe.
Marie Cardinal, quel est, dans ces dernières années, l'événement qui vous paraît le plus porteur d'espoir ?
Eh ben justement... Justement, mais c'est très compliqué. Non, c'est pas très compliqué, mais c'est pour des raisons très très diverses. Je pense que la libération des femmes est une chose qui est très porteuse d'espoir, parce que si elle arrive à se réaliser, elle implique un bouleversement économique tel que toute la société doit en être changée. Et donc tout changement est plein d'espoir. Tout changement, pour moi, c'est quelque chose de profitable, c'est quelque chose d'heureux, c'est quelque chose de nécessaire. Il n'y a rien de pire que la stagnation, que l'installation, que le confort, etc. Donc, je pense que si la libération des femmes intervient vraiment, et elles se battent pour y arriver, quelquefois d'une façon très adroite, toute la société, si ça doit être fait sans hypocrisie, toute la société s'en trouvera complètement bouleversée, car on ne peut pas assumer ce nombre formidable de nouveaux emplois, de nouvelles vies, de nouvelles rémunérations. Enfin, économiquement, c'est insupportable pour un pays. Par conséquent, il est obligé, un certain système, si vous voulez, est obligé de s'effondrer pour laisser place à un système plus communautaire ou plus...
Vous parlez de transformation économique, c'est-à-dire que pour vous, la libération des femmes passe d'abord et avant tout par le travail, par l'exercice d'une activité professionnelle.
Pas d'abord et avant tout, mais de toute manière, elles travaillent à l'œil, les femmes. Hein. Je veux dire que la lessive, le ménage, l'éducation des enfants, la cuisine, etc.
L'amour ?
C'est pas rémunéré. L'amour, ça a quand même changé. Mais enfin, ça reste dans la bourgeoisie, beaucoup comme ça. Je veux dire, les femmes se marient vraiment beaucoup, souvent, enfin, très souvent, pour vivre bien. Enfin, un type qui a de l'argent, il est quand même un petit peu mieux, a priori, que celui qui n'en a pas. Et puis, s'il n'en a pas, bon, on va faire des pieds et des mains pour qu'il en ait. Mais tout ce travail-là, c'est un travail gratuit qu'elle fait, qui est un travail énorme. Alors, je crois que si on arrivait à faire une société où ces choses-là étaient mises en commun et étaient rémunérées, je ne crois pas que c'est bien de payer la femme au foyer. Mais je pense qu'il y a des femmes qui sont très compétentes pour faire de la puériculture et d'autres très compétentes pour enseigner et d'autres très compétentes pour laver et repasser et qui prennent un grand plaisir et qui font réellement quelque chose d'important en le faisant. À ce moment-là, si on arrivait à partager comme ça... Et puis il y a des hommes aussi qui sont des bons pouponniers, et des bons cuisiniers, des bons couturiers. Et si on arrivait à pas à faire cette espèce de ségrégation terrible et qu'on partage les rôles, à ce moment-là, il faudrait les payer, parce qu'un homme, il n'accepterait pas, lui, hein, de faire la cuisine comme ça quotidiennement pour pas un clou.
La gratuité n'est pas une valeur de l'avenir ?
Oh, non. La gratuité, mais il faut savoir, dans nos sociétés, sûrement pas. Enfin, tout ce qui est bénévole, c'est une vraie catastrophe.
Mais ça n'est pas lié au respect, ça n'est pas lié à l'amour, le bénévolat, la gratuité ?
Voilà. Ça, alors je suis sûr que non. Ça, ça va avec la charité chrétienne, hein. Et ça, on sait ce que ça vaut.
C'est-à-dire ?
Bah, l'hypocrisie, vous comprenez, c'est facile. On va soigner les pauvres, on leur donne des sous, et en échange, on a le paradis. Alors, on devrait faire même 10 fois plus que ça. Enfin, vous comprenez, qu'est-ce que c'est que ces sornettes-là ? Ça va pas. Et c'est pas ça, l'amour du prochain.
Vous seriez heureuse au paradis ?
Oh, moi, je crois que je m'embêterais beaucoup. S'il est comme celui qu'on m'enseignait au catéchisme, je vois pour moi ce que j'y ferais.
C'était Parti pris. Jacques Pogam recevait le 18 juillet 1975 Marie Cardinal à l'occasion de la parution de son livre « Les mots pour le dire » édition Grasset. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».